Alors, le fameux vaccin, c'est probablement la plus belle lumière qu'on a eue dans ce sombre tunnel qu'est la pandémie. Je le dis comme si c'était bien dramatique, mais quand même, les médecins semblent dire que le taux d'efficacité sera extraordinaire. Il y a beaucoup de défis encore à relever en approvisionnement, puis en vaccination, naturellement, vacciner les gens. Ça soulève toutes sortes de questions, mais on va tenter de mettre un peu d'espoir dans votre journée. Benoît Masse est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, épidémiologiste. Bonjour, M. Masse.
Bonjour.
Alors, on peut s'attendre à commencer à être vacciné. Je dis « on ». Mettons qu'on dit « on peut s'attendre à ce que les premiers vaccinés le soient ». À partir d'à peu près quand au Québec, là, selon ce que vous voyez?
Ben là, ce qu'on entend, c'est que c'est encore possible de penser qu'on pourra se faire vacciner les groupes prioritaires en janvier. Alors, le signal est encore là. Il y a Santé Canada, encore, j'écoutais ce matin, qui disait c'est possible. Et ça va dépendre vraiment de l'incertitude, c'est la capacité à Pfizer de faire les livraisons des doses promises au Canada pour le début janvier.
OK. Les groupes prioritaires, c'est qui?
Ben, en fait, presque tous les pays ont les mêmes groupes prioritaires. Au Québec, on pense aux résidents en CHSLD.
Ouais.
Si on remet ça en perspective, là, le nombre de doses promis par Pfizer, là, le Québec, là, on peut penser recevoir, vacciner à peu près 500 000 de personnes. Alors, si on regarde les résidents en CHSLD, c'est environ 40 000. Après ça, on parle aussi des travailleurs du réseau de la santé, et ça, c'est un plus gros groupe, c'est environ 300 000 personnes.
Okay.
Après ça, on a les personnes qui vivent dans les résidences des personnes âgées aussi, et ça, c'est environ un peu moins de 150 000. Puis on voit, on est déjà rendu là avec ces trois groupes-là, là, si on les vaccine, à un demi-million.
Okay.
Donc, on peut penser que si on commence à vacciner en janvier, déjà en février, là, on a vacciné les groupes qui ont été durement touchés par la COVID.
Ouais.
Pendant les deux vagues. Là.
Mais donc, ce demi-million-là, c'est quoi? C'est une première livraison? C'est parce que ça va quand même ultimement prendre plus de doses que ça?
Oui. Là, ce que Pfizer nous a promis à court terme au Canada, c'est 6 millions de doses. Mais vous vous souvenez, c'est un vaccin deux doses. Donc, on peut vacciner 3 millions de Canadiens. À l'échelle du Québec, ben, ça finit par être à peu près un demi-million, peut-être 600 000 qu'on peut vacciner.
Et ça, Dr Mars, le fait de vacciner des gens plus vulnérables, ça enlève de la pression sur le système de santé. Donc, c'est possible qu'avec ça, on réduise les règles plus strictes qu'on a présentement. On puisse le faire, à tout le moins.
Oui, en fait, je dis souvent que l'intention de se vacciner, c'est... il y en a qui vont vouloir se protéger, mais pour la plupart des jeunes adultes ou des adultes, c'est de pouvoir se déconfiner.
Oui.
Donc, l'enjeu, ça va être vraiment de contrôler le déconfinement. On comprend que si on déconfine beaucoup trop vite pendant la période de vaccination, on va créer une autre vague. Alors, mais clairement, ça va aider parce que si on vaccine les plus vulnérables en premier, clairement, ça va désengorger les hôpitaux, réduire les hospitalisations, ça va grandement nous aider à commencer à réouvrir l'économie. On peut penser peut-être à l'école en présentiel. Là, je parle peut-être les sessions d'été, là, au cégep puis les universités.
Hein. D'ailleurs, j'imagine que dans une... pas envie de dire deuxième vague, parce qu'on a utilisé beaucoup cette expression-là pour le virus, mais disons que dans une deuxième vague de vaccination... le réseau scolaire doit arriver quand même assez vite dans la liste de priorités.
Ouais, on a entendu parler là. Les cégepiens, les universitaires là, ils souffrent en silence. Hein.
Ouais.
C'est excessivement difficile pour eux depuis le début du mois de mars. En fait, eux, ça n'a jamais vraiment reparti. Je pense qu'ils sont sur la liste du déconfinement prioritaire. Et ça me surprendrait pas que si vraiment on puisse commencer la campagne de vaccination en janvier, que déjà on commence à penser que peut-être les sessions d'été au cégep et aux universités, comme je disais, là, avoir tout ce monde-là en présentiel. Là.
On dit qu'il faut pas s'attendre à ce que tout le monde soit vacciné ou en tout cas que la pandémie soit à peu près éradiquée avant là, peut-être dans un an, au minimum là, l'automne 2021. Comment ça marche? Quel genre de taux de vaccination il faut atteindre dans une société donnée pour dire, OK, là, c'est pas mal terminé? Et d'ici là, j'imagine que tout ce qui est mesures de distanciation, là, même si on déconfine, il va falloir rester extrêmement prudent.
Oui, je pense même que ça va aller plus en 2022, là, si on parle de vraiment une épidémie en contrôle, mais il faut comprendre que présentement, les résultats qu'on a, qui sont excessivement encourageants sur l'efficacité, c'est vraiment l'efficacité à réduire les symptômes puis la sévérité de la maladie. Ce qu'on n'a pas comme information, c'est à savoir s'il prévient l'infection. Ouais, alors, si on parle d'immunité collective, bon, on peut l'avoir de deux façons. On peut l'avoir de l'immunité naturelle, c'est-à-dire on attrape le virus, on en guérit, puis là, on est immunisé. Ce qu'on sait, c'est que ceux qui l'ont attrapé, le virus, il y en a quelques-uns qui l'ont réattrapé, mais c'est assez rare. Ou on vous la procure par un vaccin, cette immunité-là. Là, ce qu'on ne sait pas, c'est à savoir si ce vaccin-là, ou même celui de Moderna, hein, nous donne une protection, nous protège contre l'infection. Ces résultats-là, on va les avoir plus tard. Là, c'est juste que c'est inconnu. Si vraiment ces vaccins-là aussi préviennent l'infection, ils nous donnent une immunité, là, on peut penser à avoir une immunité collective puis avoir une épidémie vraiment en contrôle, là, un peu au niveau où on avait cet été. Là. Si vous vous souvenez, cet été au Québec, là, on avait une poignée d'hospitalisations, quelques décès ici et là par semaine, mais c'était relativement très bien contrôlé. Et là, évidemment, cet été, on était encore confiné, mais on aurait ce niveau-là complètement déconfiné.
OK, je comprends. Est-ce que vous êtes de l'école de ceux qui pensent que le vaccin devrait être obligatoire? Lorsque les doses seront disponibles,
là,
disons.
Ça, c'est très difficile. Il y a des enjeux légaux, là, qui sont, à mon avis, difficiles à surmonter. Ce qui risque d'arriver à court terme en 2021-2022, c'est que plusieurs pays vont exiger que les visiteurs puis les touristes soient vaccinés. Si vous voulez voyager en 2021-2022, vous n'aurez pas bien le choix que vous faire vacciner. Alors, c'est sûr que sans vraiment la rendre obligatoire, tous ceux qui vont vouloir voyager, peut-être les snowbirds, par exemple, là, qui veulent aller aux États-Unis, il n'y aura pas bien le choix que de se faire vacciner. Sinon, ils vont être pris ici au Québec ou au Canada. Alors, je pense que ça peut se régler un peu de façon indirecte, si vous voulez, sans vraiment l'obliger. Mais c'est beaucoup plus facile au niveau légal d'exiger que certains groupes soient vaccinés, certains visiteurs, certains touristes, là, peut-être les personnes les plus âgées. Non?
Par rapport aux autres pays, en termes d'approvisionnement, on se situe où? Parce que j'avais l'impression que les partis d'opposition à Ottawa critiquaient beaucoup le gouvernement libéral de Justin Trudeau en disant qu'il avait pas eu une bonne stratégie, n'avait pas réservé assez de doses et autres. Si on compare, parce que c'est sûr que tous les pays veulent être les premiers à être vaccinés d'une certaine manière. Donc, c'est normal qu'il y en ait, il y en ait plus que moins. Mais on se situe où, mettons, par rapport aux autres?
Ben, en fait, c'est surprenant. Quand j'ai entendu ça, moi aussi, des partis d'opposition, j'ai dit, me semble que le Canada est parmi les premiers. Puis, en fait, j'ai vérifié. Le Canada, en termes de commandes de vaccins, et non pas seulement de Pfizer, là, mais avec toutes les compagnies, là, comme Moderna, Oxford, AstraZeneca, ils ont plus de au prorata de la population, sont vraiment en haut de la liste. Là, ce qu'on ne sait pas, évidemment, c'est beau d'avoir fait des précommandes, mais à savoir où on se situe dans la priorité pour recevoir ces précommandes-là. Alors, c'est sûr qu'on peut précommander, mais si on arrive deux, troisième en termes de priorité, c'est ça qu'on ne sait pas. Mais en termes de précommandes, le Canada, ça, franchement, on a plus par personne en termes des compagnies qui ont des vaccins là, qui ont été déjà des résultats d'efficacité intéressants. Est en haut de la liste. C'est vraiment un pays qui a passé le plus de précommandes au prorata de sa population.
Thomas,
et là, oui, allez-y.
Est-ce qu'un vaccin, c'est universel? En ce sens que nous, Santé Canada, est-ce qu'ils ont des critères qui peuvent différer de... Bon, là, il y en a un qui se développe au Royaume-Uni. En Russie, on développe un vaccin. Est-ce que c'est universel? Un vaccin, c'est accepté d'emblée par tous les corps médicaux partout à travers le monde?
Ben, en fait, les agences réglementaires comme Santé Canada, la FDA, l'Agence européenne, celle au Royaume-Uni, évidemment, ils ont des fonctionnements un peu différents, mais en termes d'approbation, d'homologation, là, ils suivent essentiellement les mêmes règles. Okay. Alors, si le Royaume-Uni a accepté, a approuvé l'utilisation d'urgence, la FDA, ça va venir probablement. Il y a une grosse réunion le 10 décembre. Là. Ça devrait se décider quelques jours après. Santé Canada, ça va suivre aussi quelques jours après. C'est bon signe. Lorsqu'on voit une grosse agence réglementaire comme la FDA approuver, c'est quasiment certain que pour Santé Canada, ça, on va avoir la même approbation.
On entendait au début de la pandémie, dans les premières semaines, évidemment, rapidement, il y a des gens qui disaient « Ah, vaccin, pas avant 18 mois à 2 ans. » Mais on lisait aussi que des vaccins pour des coronavirus humains, il n'y en avait pas. Il n'y en avait à peu près jamais eu ou jamais eu. À quel point c'est gros comme avancée, médicalement parlant, technologiquement parlant, d'avoir un vaccin pour un coronavirus humain?
Ben en fait, j'étais de ceux-là. J'avais déjà écrit au mois de mars dans certains articles qu'il fallait pas penser à un vaccin avant 18 mois, 2 ans. Donc j'étais de ceux-là qui croyaient que c'était impossible et c'est phénoménal. Sincèrement, là, c'est lorsque tous les scientifiques, avec les ressources évidemment, c'est beau, tous les scientifiques se mettent ensemble, mais si on n'a pas les fonds, puis on n'a pas les gouvernements qui aident à financer ces études-là, c'est phénoménal, c'est du jamais vu. Je suis excessivement impressionné. J'étais un de ceux qui disaient oui, on va accélérer tout. Mais même à ça, on parle, par exemple, des vaccins comme l'Ebola, que ça a pris presque 10 ans avant d'être approuvé, testé, évalué et finalement homologué. Alors, on va écrire des livres là-dessus sur ce processus-là parce que c'est phénoménal.
La qualité des vaccins également, je crois, hein, Dr Mars, la qualité des vaccins est très bonne.
L'efficacité,
aussi.
Ouais. L'efficacité.
Ben, on va le voir assez vite. C'est sûr que lorsqu'on voit ces deux choses aussi qui sont intéressantes dans les caractéristiques du vaccin, c'est que son efficacité, elle semble être très forte chez les personnes âgées. Et ça, c'est pas donné, par exemple, pour le vaccin, pour la grippe. Il est efficace, bon, moyennement, mais plus on est âgé, moins il devient efficace. Ça semble pas être le cas pour les vaccins de Pfizer et de Moderna et de Oxford AstraZeneca. En plus, il semble avoir un profil de sécurité excellent. C'est sûr qu'on va avoir plus d'informations, mais déjà au départ de partir avec une très forte efficacité, un profil de sécurité qui semble être excellent, plus une efficacité qui semble être très forte aussi maintenue pour les personnes âgées. Vraiment, on ne pourrait pas rêver mieux comme vaccin. En fait, puis en plus, on n'a pas juste un. Il semble qu'on en ait deux, parce que celui de Pfizer puis de Moderna, c'est la même technologie. Alors, il devrait avoir à peu près les mêmes propriétés aussi.
Docteur Mars, je ne me souviens pas depuis mars dernier avoir terminé une entrevue avec un médecin avec plus d'espoir que j'en avais avant l'entrevue. Puis là, ça semble être le cas.
Ah, je ne suis pas médecin, mais je vous remercie.
Oui, ben, en tout cas, avec un expert, on va dire. Parce que on a interviewé pas juste des médecins, on a interviewé des experts dans tous les domaines. Et puis, franchement, ça donne quand même espoir de vous écouter. Merci, M. Mars.
OK, merci. Bonne journée.
Bonne journée. Benoît Mars est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.
Ça fait du bien.
Ben oui.
Le mot, c'est phénoménal.
Ah oui.
Hey, on nous disait 18 mois à 2 ans, ça, c'était les optimistes. Les pessimistes disaient peut-être jamais, parce que ça n'existe pas, un vaccin pour un coronavirus.
Et ce qu'on aura développé,
il va falloir recommencer. Puis bon, on est à 9 mois.
Oui. Ouais. Au mois de mars,
9 mois. Puis on commence à dire que d'ici à la fin du mois, des gens seront vaccinés.
Ouais.
C'est-à-dire le vaccin, il existe. Franchement, c'est encourageant.
Écoute, même la semaine prochaine au Royaume-Uni, bon, en Russie, on se demande, là, Spoutnik. Mais en même temps, ils tueront pas leur population pour le fun ou ils rendront pas malade le fun. Là, ils ont pas fait ça.
Va te prendre un Spoutnik.
C'est juste que ça travaille un peu. Ça travaille un peu en silo en Russie par rapport au reste du monde. Puis.
On c'est pas comme la course à la Lune, la course à l'espace.
Oui, tout ce qui a été la guerre froide, entre autres, notamment, à la suite de la guerre.
Course au vaccin.
Pas rien.
Ah non, c'est vraiment...
Mais hey, c'est hot, là. Tu sais, je veux dire, il y a, je sais pas combien de temps, mais dans le passé, ça se serait jamais passé aussi vite, là. La science est rendue, puis sais-tu quoi? On est en 2020, là. Puis dans quelques années, on va se dire, hey, imagine si c'est arrivé en 2020, ça aurait pris quasiment un an comme ça a pris en 2020 pour trouver le vaccin. Mais dans quelques années, à un moment donné, ça va être plus vite.
Puis je comprends qu'il y a des gens qui ont quand même des interrogations là, à part celui qui dit, c'est déplorable de vous entendre encourager ce délire. Ben, faites-vous pas vacciner, mon chum, puis on s'en parle dans 5 ans. Mm-hmm.
C'est quoi le délire?
Il y a des gens qui sont cons.
Il y a des gens qui pensent que le COVID, c'est un délire. Là. J'ai parlé avec un monsieur à un moment donné, il m'a dit, COVID, ça n'existe pas. Ouais. Moi, je regarde les avis de décès, il n'y en a pas plus.
Il n'y en a pas.
Fait que bon, mais par exemple, je vois plus rationnellement, un auditeur nous dit miracle, phénoménal, du jamais vu. Est-ce que vous trouvez pas que c'est peut-être trop beau pour être vrai? Ben, c'est correct d'avoir ces doutes-là. Moi, je suis un optimiste, certains vont dire idéaliste. J'ai tendance à faire confiance aux experts qui font les tests, puis quand ils disent ben 95% d'efficacité, moi je peux pas vérifier personnellement c'est quoi l'efficacité du vaccin. Bon, puis sincèrement, si jamais le vaccin, finalement, là, il génère bien des problèmes, peu importe, là, ben,
les effets secondaires.
Ça sera ça, mais en ce moment, on est dans une pandémie, puis on peut plus attendre, là. Si les experts, en fonction des données qu'ils ont, nous disent que le vaccin, il fonctionne, je vais le prendre comme un toxico va prendre sa shot, là, t'as pas idée comment je vais le prendre.
Mais ça réglera pas tout, là. Ça va enlever de la pression sur le système de santé, puis juste ça, ça va nous permettre de prendre de l'air pas mal, de fonctionner un petit peu plus régulièrement. Là.
Système de c'est santé ça, et l'économie aussi, ça va donner une bonne chance.
Ça va donner du gaz puis de l'air à tout le monde, mais effectivement.
Il y a vraiment un sous-point là-dedans que je trouve important, parce qu'au départ, quand on a commencé à jaser de vaccins...
C'est comme un soupule.
Ben, c'est comme un soupule, comme dirait Hortense. Mais il y a vraiment quelque chose qui était discuté au départ, c'était à quel point les compagnies pharmaceutiques ou autres qui développent des vaccins sont dépendants de l'investissement des gouvernements. Donc, on s'entend que c'est vraiment quelque chose qui, si tu nous rapportes, on va te financer dans le développement de ton vaccin ou de ton médicament. C'est comme ça que ça marche, OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Mm-hmm. Et on avait déploré le fait qu'au premier SRAS, au premier cas de coronavirus existant ou de type de virus-là,
le SARS-CoV-2.
On avait arrêté d'investir dans le développement de ce type de vaccin-là parce qu'on se disait, est-ce qu'on va vraiment avoir à s'en servir un jour? On le sait pas. Fait que tant qu'il y a pitché de l'argent là-dedans en ce moment, on va attendre. Et ça a été une des erreurs qui avait été relevée de tout ça en se disant, on devrait jamais arrêter une recherche intensive sur quelque chose dans lequel on avance et qu'on semble avoir trouvé peut-être un vaccin au cas où ça arrive un jour. Mm-hmm. Et que ça devrait pas être juste basé sur, on va se faire de l'argent avec eux maintenant.
Ouais. Puis, soyez pas surpris s'il reste des mesures de distanciation malgré, même c'est après. Sûr. Puis même, là, je te parle pas de février ou même septembre, je te parle 2025. Moi, d'après moi, le masque dans les épiceries pendant la...
Loin.
Ouais, mais je veux dire...
Ça va devenir une norme publique.
Je pense qu'à un moment donné, je sais pas.
Désinfectant à main, c'est sûr que oui.
Désinfectant à main à l'entrée de tous les commerces.
On m'assure que ça va rester.
Mais se laver les mains, là, avant la pandémie, c'était recommandé, pas pire aussi.
Ouais.
Là, se laver les mains de temps en temps.
Il y en a qui trouvaient ça optionnel.
Une fois sur deux.
Il y en a qui trouvaient ça optionnel après la toilette. Là, on
après
peut
la
les
toilette,
voir.
C'est sûr.
Ça, c'est dans les personnes que je juge le plus.
Oui, oui. Incroyable.
Oui, mais c'est parce que quand il faut que tu frottes.
Hey, j'ai un enseignant qui disait, moi, je me lave juste les mains avant.
Ben oui.
Pour être propre de ma personne avec moi-même.
Ah, c'est ça, pour pas te salir la bisonne.
Ben, c'était quelque chose que j'essayais de dire en deux mots.
Pour pas salir le papier quand il se suit.
C'est devenu une phrase confortable pour bien des gars au fil des années, ça. Pour
de quoi? Pas,
c'est une phrase qui réconforte, confortable.
Je me lave les mains avant?
Ben, il y a beaucoup de gars qui disent ça.
Mais lave-les après aussi. Ouais, si toi, c'est après, important avant, c'est important pour moi après.
Tu peux encore après, là. C'est pas défendu. T'as pas le droit une fois par visite, là.
Je vous dis juste que c'est devenu un objet de réconfort, cette phrase, pour bien des hommes qui se lavaient pas les mains après.
Vous savez,
j'ai lave avant. Ah oui.
J'ai jamais entendu ça de ma vie. Jamais de ma vie, j'ai pensé me laver les mains avant pisser, puis après pisser. Laver avant.
J'ai entendu ça souvent, mais écoute, on côtoie pas le même monde, là. C'est peut-être juste ça.
Je dois être fou.
Outre le vaccin, il y a des médicaments aussi qui vont s'en venir sur le marché sûrement. Là.
Probable.
Mais ils vont se dépêcher.
Ouais, ils vont se dépêcher.
Il y a un avantage pécuniaire en arrière de ça.
On a un scientifique, là, il est très drôle, ce monsieur-là, M. Boivin, je pense. Docteur Boivin, Guy Boivin, c'est un monsieur toujours calme et drôle à entendre. Lui, il se stresse avec rien. Je le vois bien dans son lab faire ses recherches. Lui, il croit plus aux médicaments qu'aux vaccins, mais il travaille sur un médicament.
Puis
là.
Le médicament, en fait, ça empêcherait d'avoir la COVID ou ça serait atténuer les symptômes?
Pour traiter pendant que...
Traité.
Okay.
Ça, je pense qu'il y a plus d'adeptes aux médicaments qu'aux vaccins.
Parce qu'un vaccin voie orale, c'est déjà vu.
Oui, c'est ça.
Ça aurait pu être ça aussi.
Exact, je pense.
Mais on nous dit par texto, la saucisse, on en mange et on ne sait pas vraiment c'est quoi non plus.
Mais il y a beaucoup de gens, effectivement, qui disent, il me semble on manque d'informations sur le vaccin, mais tu sais, on manque d'informations aussi sur ce que ça prend pour faire décoller une fusée, qu'elle aille dans l'espace puis qu'elle atterrisse à la même place. Il y a beaucoup d'affaires, c'est qu'on manque d'informations.
Oui, mais il y a des gens qui font pas confiance à la science en partant. Il y en a qui croient pas. Tu disais tantôt, il y a des gens qui croient pas à la pandémie. Puis c'est vrai, tu as raison, tu n'inventes rien. Donc, eux, là, tu leur parles d'un vaccin, d'après moi, ils sont dans la gang qu'ils vont être sceptiques jusqu'à la fin. Là.
Mais tu sais, être sceptique, c'est comme tout. Être sceptique, c'est correct. Il faut même être sceptique dans une certaine mesure. Mais exagérer.
Sceptique à pas y croire.
Exagérer, c'est jamais
donc,
bon.
Ils croiront pas, là.
Non, je suis la preuve.
Il y en a une gang, là. Il y en a une gang que. J'emploierai un terme. Sont des indécrotables, tu sais.
Casse de foil.
Il n'y a rien à faire avec eux autres. Là.
Ouais.
Peu importe ce qui va arriver, là.
Bon, prenez-vous un petit morceau de brownies, les amis. Là. Vous allez voir, c'est cœur, hein. Il colle un peu dans le palais, mais au goût, là, franchement, il est
morceaux de chocolat.
Tu te rendras
pas au bout, finalement.
Ben non.
Parce que je t'ai vu l'écarter de devant toi.
J'ai jamais eu l'intention de me rendre au bout de ça. Je me rends malade. C'est
si
délicieux.
Si on sortait le thé à 6h30.
Oui, s'il n'y avait pas de.
Non, mais je disais ça pour.
La motivation semblait.
S'il n'y avait pas de peer pressure pour arrêter, là, t'aurais pas arrêté.
Comme ils disent.
Ouais.
Hey, vous avez le choix. Ah non, vous choisirez après la pause. Parce que j'ai plusieurs histoires à vous raconter, mais vous avez le choix entre l'écureuil galeux ou l'amnésique à court terme.
Oh. Ah ben ouais, on a du choix maintenant.
Ouais, mais prenez la pause pour y penser.